Voix d'Église, une émission collaborative des radios protestantes FM+ à Montpellier, Fréquence protestante à Paris, Radio Grille Ouverte à Alès et Radio Alliance Plus à Nîmes.
Haïti, première république noire indépendante, un pays né de la lutte pour la liberté, mais que la liberté a fait payer très cher. Deux siècles plus tard, Haïti porte encore les marques de la rançon de l'indépendance. Cette dette colossale imposée par la France au XIXe siècle, que nous dit aujourd'hui cette histoire à nous qui croyons en la justice et en l'espérance? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission spéciale sur Haïti, inspirée du dossier publié par la presse protestante régionale. Le dossier du mois d'octobre est consacré à Haïti, sa mémoire blessée et à son courage. On y parle d'histoire, d'économie, de foi, de dignité. Et ensemble, nous allons retracer les grandes lignes de cette rançon de l'indépendance et écouter les voix qui portent encore cette histoire dans leur chair et dans leur espérance. Et pour notre émission d'aujourd'hui, ce sera Laurent Keller qui nous représentera pour Radio RGO, Radio Grille Ouverte sur Alès. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Valérie Thorin pour Fréquence Protestante à Paris. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous et à toutes.
Et notre invité pour cette émission, Philippe Verseille. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Voilà, pour démarrer, c'est le segment Histoire et Mémoire. Tout commence en 1804. Haïti devient la première république qui est issue d'une révolte d'esclaves victorieuse, une révolution sans équivalent dans l'histoire moderne. Et en 1825, la France exige du jeune État haïtien une indemnité astronomique, 150 millions de francs or, en échange de la reconnaissance officielle de son indépendance. Cette somme, c'est l'équivalent de dizaines de milliards d'euros actuels, ce qui a étranglé le pays pendant plus d'un siècle. Et le dossier de la presse régionale nous rappelle que cette dette contractée pour acheter la liberté a fait de l'indépendance une dépendance nouvelle, économique, politique, symbolique. Alors cette rançon n'a pas seulement vidé les caisses de l'État haïtien, et Philippe Verseille, vous avez consacré dans ce dossier un article très particulier là-dessus, sur la rançon de la liberté.
Oui, parce qu'on a parlé de la dette souvent, mais en fait c'est une véritable rançon. Donc c'est en 1825 Charles X, le roi Charles X, donc a imposé cette rançon pour faire payer la liberté, l'indépendance au pays d'Haïti. Et c'est vrai que ça a grevé complètement le budget et l'histoire d'Haïti. D'autant que Haïti n'ayant pas pu payer cette dette, ils ont dû emprunter à des banques, en particulier françaises. Donc il y a eu non seulement la dette, mais en plus les intérêts de la dette qui ont été remboursés jusqu'en 1957. Toute la dette a été remboursée par Haïti jusqu'en 1957.
Donc 1957, il y a un nouveau versant, mais depuis 1957, on se rend compte que économiquement, politiquement, socialement, la vie en Haïti est complètement instable. Et à cela vient se rajouter tous les éléments naturels qui empêchent vraiment ce pays de se relever.
Oui, la dette est un élément de la situation d'Haïti, bien sûr. C'est pas le seul, c'est pas la seule cause de la situation dramatique dans laquelle se trouve ce pays. Il y a aussi effectivement la difficulté d'une stabilité politique. Il y a les éléments naturels, les cyclones et les tremblements de terre, et notamment le tremblement de terre de 2010. Mais cette dette a imposé à l'État de récupérer des biens de production faits par les paysans. Et donc c'est vrai que ça a complètement modifié le développement économique du pays et impacté très fortement la stabilité sociale et économique.
Donc au-delà des chiffres et de l'histoire, il y a la vie quotidienne, la foi, la résistance des Haïtiens eux-mêmes. Laurent ou Valérie, est-ce qu'il y a un article particulier du dossier de la presse qui vous a plus marqué, interpellé ?
Alors, si je peux...
Laurent ?
Je peux effectivement... j'étais effectivement... choqué par le fait que aucune république française, après cette restauration par la monarchie française du XIXe siècle, personne n'a remis en cause en fait cette dette là. Je suis assez étonné parce que ce soit terminé jusqu'au dernier terme en 1957. J'ai été extrêmement étonné et qu'on revienne là-dessus aujourd'hui. Bien entendu, ça va interpeller la population. Et on n'a pas dit, mais le colloque qui a lieu 1825, donc c'est le bicentenaire cette année, et le président Macron a eu un discours, mais c'était au premier trimestre de cette année. Et là, au mois de novembre, à la fin du mois de novembre, la Fédération protestante de France va organiser un colloque à ce sujet. Philippe Versailles, vous en êtes l'initiateur, ou en tout cas l'organisateur. Et je serais curieux de voir le contenu des interventions et la réaction surtout des uns et des autres, que ce soit les politiques et la population en fait, parce que cette histoire elle est loin.
Oui, elle est loin, elle est unique. Hein. J'ai pas connaissance qu'il y ait eu vraiment la même attitude d'un pays vis-à-vis d'un autre. De faire payer en quelque sorte l'indépendance acquise par le pays lui-même. Et ce colloque donc organisé par effectivement la plateforme Haïti de la Fédération protestante de France a un peu un double objectif. C'est d'une part effectivement s'inscrire, on en a un peu parlé cette année, hein, effectivement de cette dette, de cette rançon, s'inscrire un peu dans cette dynamique pour essayer de revenir sur cette histoire, malheureusement pas tellement certainement pour une réparation financière effective, parce que je pense que la France n'est pas du tout prête à cela, les politiques français ne sont pas du tout prêts à cela, mais au moins de façon un peu symbolique, et de travailler sur cette question de l'indépendance. Notre volonté dans l'organisation du colloque le samedi, qui sera ouvert par Jean-Marc Ayrault, qui est le président de la Fondation de lutte contre l'esclavage. Notre volonté, c'est de dire comment est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui de vivre une dépendance qui ne soit pas une domination. Parce qu'en fait, l'idée d'indépendance, d'autonomie, de vivre chacun chez soi est totalement irréaliste et certainement pas non plus souhaitable. Mais comment est-ce qu'on peut tisser des liens entre pays qui soient des liens de dépendance réciproque, mais qui ne soient pas des liens de domination. Donc c'est un peu notre fil rouge de ce colloque du samedi. Et puis le dimanche, on a aussi la volonté de susciter à nouveau l'intérêt pour Haïti dans le réseau des églises protestantes de la Fédération protestante de France, parce que c'est vrai que l'actualité aujourd'hui nous tourne nos regards malheureusement vers d'autres drames terribles eux aussi, mais nous voudrions que Haïti reste dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos prières. Et donc le dimanche, il y aura deux éléments, c'est-à-dire une information qui va être envoyée à toutes les paroisses pour que dans les cultes du dimanche matin, il y ait un temps consacré à Haïti, certainement avec l'information des journaux régionaux qui ont ce petit dossier qui a été très bien fait, et puis un temps de prière, un temps de soutien. Et le dimanche après-midi, dans le temple de l'Étoile à Paris, il y aura un grand culte organisé et animé par l'ensemble des communautés haïtiennes de Paris, enfin de la région d'Île-de-France, qui sera aussi retransmis en direct, en vidéo. L'idée étant donc d'associer la prière, le soutien et les pensées de l'ensemble du réseau protestant vis-à-vis de nos partenaires haïtiens.
D'ailleurs, c'est ce que disait un des responsables de l'Église protestante à Haïti. Haïti, ce n'est pas seulement la misère que l'on montre à la télévision, c'est un peuple qui prie, qui chante, qui se relève après chaque ouragan. Et dans les églises haïtiennes, on apprend à se soutenir, à croire que Dieu ne les a pas oubliés. La foi en Haïti, c'est quelque chose où c'est la manière de résister. Et justement, c'est dans les différents articles de la presse protestante, on rappelle l'engagement des églises protestantes auprès des populations, que ce soit l'alphabétisation, les micro-projets agricoles, l'entraide. L'église n'est pas seulement un refuge spirituel, elle est un acteur social, un lieu de dignité.
Oui, c'est important ce que tu dis, Redouane, parce que c'est vrai que l'image qu'on a d'Haïti, mais depuis longtemps, mais encore plus aujourd'hui, où effectivement la situation politique est dramatique, puisque les gangs ont pratiquement pris le pouvoir dans ce pays aujourd'hui. Mais pourtant, un certain nombre d'acteurs sont extrêmement importants. Et j'allais dire, les partenaires que nous avons depuis des années avec l'ensemble des membres de la plateforme Haïti sont des acteurs de terrain extrêmement forts, puissants, et je pense à la Fédération des écoles protestantes, par exemple, qui regroupe 3000 écoles sur l'ensemble du territoire, qui continue un travail de formation, de soutien et d'accompagnement de toutes ces écoles, des enseignants et des élèves. Mais je pense aussi à l'Union des Églises Baptistes, qui travaille auprès de la population déplacée, auprès des pasteurs déplacés, auprès des paroissiens déplacés, pour un soutien quotidien. Je pense encore aux orphelinats qui sont soutenus par la Fondation La Cause, qui parraine des enfants dans une dizaine d'orphelinats en Haïti, ces orphelinats qui protègent ces enfants, qui continuent à les accompagner. Quand on est en lien avec tous ces partenaires, on est, je trouve même pas le mot, mais on est tellement étonné de cette force de vie, de foi et d'engagement. Je pense que c'est important de se rappeler que Haïti a aussi ce visage-là, effectivement.
Valérie ou Laurent?
J'ai envie un peu de me faire l'avocat du diable. Il se trouve qu'après le tremblement de terre de 2010, j'ai été recrutée par USAID et la fondation, l'administration Clinton pour donner des cours de journalisme dans une école à Port-au-Prince. Dans une tente, parce que l'école avait été complètement détruite. Et donc, je suis allée pendant 2 ans, une fois par mois et demi, on va dire, en Haïti. Et donc, du coup, j'ai fait connaissance avec un tas de gens, y compris des acteurs politiques, des gens des Nations Unies, etc., et puis des gens du USAID à l'époque, et puis de tout l'organisation qui s'est mise en place pour reconstruire. Et je ne suis pas du tout en train de dire que la France n'a aucune responsabilité, mais il faut quand même pas tellement oublier que depuis les années 60, il y a eu des gouvernements qui se sont succédés, il y a eu des gouvernements dictatoriaux, et puis il y a eu le président Aristide et ses successeurs. La particularité haïtienne étant est de ne pas être une république présidentielle, mais une république parlementaire, avec tous les problèmes que ça comporte, c'est-à-dire la difficulté d'avoir un premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui soit, un peu vulgairement les mains dans le cambouis, mais qui prenne les décisions concrètes, Parce qu'il doit être accepté par ce Parlement, et ce Parlement est très souvent... Il n'y a pas de majorité. Ça doit vous rappeler quelque chose, d'ailleurs. Donc, je suis consciente qu'il y a une responsabilité française dans la dette qui a orienté l'économie d'une certaine façon. Mais il y a aussi une responsabilité haïtienne. Et il ne faudrait pas que cette responsabilité haïtienne masque que la responsabilité française masque la responsabilité haïtienne. Parce que il y a quand même une énorme corruption. Il y a quand même même si c'est un peuple résilient, Philippe, pardonnez-moi, mais vous dites, bon, les gangs ont pratiquement pris le pouvoir, et puis vous passez à autre chose. Comment peut-on considérer comme un fait et le prendre en compte et ne pas s'y intéresser plus que ça, et qui consiste à dire, les gangs ont pris le pouvoir? Il y a quand même un problème là structurel pour un pays qui est indépendant, hein, je le rappelle, même s'il est sous perfusion internationale, il y a quand même un certain nombre de décisions politiques qui ont été prises. Alors on dit toujours c'est la faute des autres, on dit toujours c'est la faute des Blancs, on dit c'est la faute des Français, puis après c'est la faute des Américains. Les Américains n'ont pas voulu ceci, les Français n'ont pas voulu cela, et les Nations Unies n'ont pas voulu le maintien de la force de paix, soi-disant parce que Michel Martelly avait dit qu'il allait mettre au point une armée. Je crois quand même qu'il faut avoir aussi un petit peu en tête... la réelle politique et le fait que considérer comme étant acquis le fait que les gangs aient pris le pouvoir, eh bien, ça ne devrait pas.
Si je peux me permettre juste, non, bien sûr que ça ne devrait pas. Je crois que c'est plus complexe que ce que tu ne le dis, Valérie. C'est-à-dire si Michel Martelly a été président de la République, c'était un coup de force. Et il y avait à ce moment-là l'ambassadeur du Brésil qui a été mis de côté et qui l'avait écrit et qui l'avait bien analysé. Ça a été un coup de force des Américains qui ne voulaient pas, qui voulaient le mettre en place. Et donc on est dans une situation où l'indépendance n'a jamais été réelle. Ça n'enlève aucunement la responsabilité de politique des responsables haïtiens qui effectivement sont dans des... il y a une terrible corruption, mais on ne peut pas... c'est un ensemble. Moi, je ne me suis pas arrêté sur la situation aujourd'hui, qui est effectivement une situation complètement dramatique, dont on ne voit pas l'issue. Hein, et c'est vrai qu'en même temps, l'intervention internationale aujourd'hui d'une force militaire armée qui pourrait lutter contre les gangs, je ne sais pas quelles seraient les conséquences, et c'est une situation extrêmement complexe. Il y a eu, puisque tu as travaillé juste après avec USAID, il y a eu un film fait par Raoul Peck, donc, qui est un cinéaste haïtien, et qui a fait un documentaire sur l'aide internationale après le tremblement de terre qui s'appelle « Assistance mortelle ». Et qui montre effectivement toutes les dysfonctionnements, en même temps la nécessité, et tous les dysfonctionnements de l'aide au développement. Et quand on sait, moi j'étais donc de 2010 à 2012, hein, j'étais en Haïti après le tremblement de terre, et j'avais des copains qui travaillaient à l'UNICEF, ils étaient payés 5000 euros, hein, ils embauchaient, les chauffeurs étaient payés 3000 euros. C'est-à-dire que tous les chauffeurs haïtiens étaient en fait les cadres qui effectivement sont arrêtés leur boulot pour être chauffeurs dans les grandes organisations internationales. Donc une désorganisation totale. 5% seulement de l'aide internationale qui a été envoyée a été gérée par les Haïtiens. Tout le reste a été géré par les organisations internationales politique ou ONG. Donc on est dans une situation où ce dysfonctionnement politique actuel, qui se traduit malheureusement par la prise de pouvoir des gangs dans 85% à peu près de Port-au-Prince et dans beaucoup de régions du pays, est une situation absolument dramatique dont on ne voit pas l'issue. Donc je pense que on ne peut pas rejeter la faute d'un côté et de l'autre, elle est collective. Pour moi, elle est collective. Elle est aussi bien, effectivement, des Haïtiens, mais de la France, mais aussi de la communauté internationale. C'est pour ça que notre objectif, dans ce prétexte, ou en tout cas ce fait de la dette et de ce bicentenaire de cette dette ou de cette rançon, c'est pas de faire le procès ni de la France, ni de la communauté internationale, ni de la situation des politiques haïtiens, c'est d'essayer de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer de reconstruire des liens ou tisser des liens qui soient en même temps une reconnaissance. Il y a quelque chose de la blessure aussi qu'il faut reconnaître, et je pense que là, pour le coup, tout le travail que fait Jean-Marc Ayrault dans la fondation de l'esclavage est extrêmement important. C'est une blessure symbolique, une blessure forte qu'il faut reconnaître et sur laquelle il faut travailler. Mais comment est-ce qu'on peut, à partir de la reconnaissance, pour le coup, de cette dette de la France vis-à-vis d'Haïti, comment est-ce qu'on peut retisser des liens qui soient des liens de reconnaissance mutuelle et de dépendance mutuelle. Je crois que c'est ça qui est important. Et en même temps, notre volonté aussi, c'est d'affirmer que dans ce contexte-là, un peu inextricable, un peu désespérant, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent, il n'y a pas que les églises, il n'y a pas que les protestants, heureusement. Mais il y a aussi des protestants et des partenaires qui sont des acteurs de reconstruction.
Justement, en lisant les différents articles, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'indépendance aujourd'hui à Haïti? Qu'est-ce que ça signifie? Quel coût implique cela et sous quelle forme? Et comment les communautés chrétiennes peuvent contribuer à une justice structurelle, une solidarité renouvelée et une espérance qui soit viable malgré les vulnérabilités? Mais peut-être que là-dessus, Laurent, vous pouvez réagir si... cette partie du dossier vous a sensibilisé ou vous a interpellé?
Mais j'ai bien lu, oui, il y a un appel à nouer des liens et à conserver des liens qui sont déjà existants avec cette plateforme Haïti à la Fédération protestante qu'il faut continuer de soutenir. C'est malgré les vicissitudes dont on vient de parler, qui sont bien réelles, ça c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'en rajouterai encore parce que avec tout le trafic de drogue qu'il y a par exemple dans ces îles des Caraïbes, Haïti devient de fait une plateforme, de même que les Antilles françaises sont une plateforme. Donc ça se retrouve ici, ça se retrouve en Europe en tout cas. On peut pas l'abandonner, on peut pas non plus complètement le rejeter. Et puis c'est aussi un enjeu, c'est un enjeu, politique intellectuelle. C'est-à-dire que cette histoire de l'esclavage, cette histoire française, qui n'est pas protestante, parce que quand on regarde le Code noir, les protestants et les juifs figurent en bonne place dans le Code noir qui a mis en place l'esclavage pour dire qu'ils ne doivent pas participer à cela. Ils doivent être exclus des îles. C'est quelque chose qui est assez remarquable d'ailleurs. Mais on le voit avec le Mali, on le voit avec les États de l'AES en Afrique. Ils rejettent maintenant la France d'un bloc. C'est un enjeu aussi sur l'influence de la France, ça. De refuser de regarder cette histoire-là, on a aujourd'hui une existence diplomatique française qui est devenue problématique dans des pays qui, traditionnellement, sont francophones. Et ça, c'est quelque chose qui va se poser pour nous aujourd'hui. C'est un problème qui nous concerne aussi.
Oui, je pense que c'est un problème qui nous concerne, et même qui nous concerne de façon très directe, si on se tourne vers la Nouvelle-Calédonie, vers la Réunion, vers Mayotte, où en fait, je pense que comment est-ce qu'on vit une dépendance, indépendance, ces problématiques sont encore des problématiques totalement actuelles dans le contexte de la France d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est... Et là aussi, je crois que ça sert à rien l'idée, c'est pas de trouver des responsables et des cibles, L'idée, c'est de réfléchir comment, je pense par exemple à Mayotte, où on voit combien la situation politique est extrêmement complexe, où en même temps, est-ce qu'une indépendance est possible, viable, et est-ce qu'elle est souhaitable, et en même temps, elle est voulue par certains, on se retrouve dans des contextes un peu similaires, d'une histoire qui se répète, et pour lesquelles on n'a pas beaucoup de j'allais dire, ni de réflexion, ni de proposition concrète. Je crois que c'est... on est dans un monde qui, en même temps, ne peut pas... comment dire, où chacun ne peut pas vivre seul, et où, en même temps, le vivre ensemble est de plus en plus difficile. Je crois que c'est aussi cela qu'en regardant cette histoire, on repose.
Voilà, merci à Philippe, merci à Valérie et à Laurent. On arrive, on n'a pas senti cette fois-ci ces 28 minutes passées. C'est vraiment une histoire passionnante parce que, en fait, c'est pas seulement le fait de regarder dans le rétroviseur, c'est une manière de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et surtout en tant que. Comme deux fois, pour moi, c'est de savoir que l'espérance d'Haïti, c'est celle d'un peuple debout, qui croit encore en la dignité, malgré la nuit que ce peuple traverse. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates pour ces deux grands rendez-vous sur Paris, 28 et 29 novembre, Philippe ?
Alors, ça commence le vendredi soir par la projection d'un film. Donc dans les salons de la Fédération protestante 47 rue de Clichy, un film qui s'appelle Le Serment des ancêtres. C'est un film sur un tableau qui représente une page symbolique de la libération de l'esclavage en Haïti. Et ensuite il y a le colloque donc le samedi toute la journée, là aussi dans les salons de la Fédération protestante de France, rue de Clichy, à Paris. Et puis, le dimanche matin, donc une invitation à toutes les paroisses à avoir un temps de prière, d'intercession et de soutien et d'information sur Haïti. Et le dimanche après-midi, le 30 novembre, à 15h30, un culte dans le temple de l'Étoile à Paris, qui sera animé par les communautés haïtiennes en France et diffusé en direct aussi sur YouTube.
Merci beaucoup Philippe Verseille d'avoir pris le temps parce que je sais que vous étiez en réunion, donc vous vous êtes extirpé de cette réunion pour nous rejoindre. Merci à Valérie et aussi avec son regard et son expérience sur le terrain haïtien. Et puis Laurent qui nous a aussi permis d'avoir une vision plus large, resituer aussi les enjeux à la fois pour notre pays, pour nos églises. Et merci aussi aux auditeurs de Radio Grille Ouverte à Alès, de Fréquence Protestante sur Paris et Radio Alliance Plus sur le bassin Nîmois. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et avec un nouveau dossier à découvrir, ça sera la grande surprise. Et puis, on espère vraiment un bon succès pour ces deux rendez-vous du 28 et 29 novembre sur Paris. Merci à vous.
Voix d'Église, une émission collaborative des radios protestantes FM+, à Montpellier, Fréquence Protestante à Paris, Radio Grille Ouverte à Alès, et Radio Alliance Plus à Nîmes.